Interview.
2 jours.
Pour l'interview, nous recevons Valérie Lemaire. Bonjour.
Bonjour, Yves.
Valérie Lemaire, tu es ici pour nous parler d'une exposition à la cave Marcou à Châtillon-en-Diois et qui commence donc avec un vernissage ce 30 juin à 18h. Alors, une exposition de peinture que tu proposes avec une expression vouée à la nature.
Oui. Entre autres, oui, c'est une exposition particulièrement florale, celle-ci d'un côté, puis d'autre côté, il y a une grande diversité. J'aimerais présenter aussi aux Châtillonnais un peu tout le panel de peintures que je peux faire. Donc, il y a d'anciennes peintures qui sont très abstraites, d'autres plus réalistes dernièrement. Il se trouve que c'est comme ça, c'est un style qui change, vu que c'est une peinture assez intuitive.
Avant de parler de cette exposition, on peut parler aussi en préambule de ce qui t'a amené à la pratique de la peinture. Il me semble que tu t'es exercée sur la formation de décoratrice. Et dans ce cas-là, est-ce que ça a été aussi le pied à l'étrier ou alors depuis très jeune, le dessin ou la couleur t'a attiré?
Oui, bah les deux. En effet, depuis très jeune, je peins, je dessine. Et c'est vrai que j'ai pris des cours du soir. J'étais parisienne, j'ai travaillé dans des ateliers de décor avant pour la pub, pour la télé, le cinéma, l'événementiel. Et j'ai pu ensuite... J'ai pris aussi en parallèle des cours du soir aux ateliers des Beaux-Arts de la ville de Paris. Et puis, du coup, voilà, j'ai avancé comme ça, en ayant en plus, après une formation avec les compagnons, Faubois, Faumarbre, Trompe-l'œil.
Et donc, il y a cette pratique de la peinture donc, très jeune. Il y a des peintres qui t'ont donné le goût de peindre ou l'envie de peindre et qui peuvent transparaître sur tes propositions.
Alors, je ne sais pas si ça transparaît sur mes propositions, mais j'ai le souvenir enfant d'être allée au Louvre et d'être complètement subjuguée par le scribe, bon, qui est une sculpture, et la Joconde, et aussi beaucoup de portraits classiques, en m'interrogeant sur la technique et comment pouvait-on faire pour être aussi réaliste pour un visage, ouais, vraiment transcendé par ça.
À l'époque, la Joconde était bien visible encore, ou avant qu'elle ne soit avec une telle affluence, il faut, je crois, rester à peine quelques secondes devant, tellement elle est sollicitée.
Et ouais, et vu mon âge, ouais, j'ai eu la chance d'avoir la Joconde. On a eu la chance d'avoir la Joconde pour une petite classe de maternelle, ouais, je pense qu'on était jeunes. Hein.
Et le scribe, c'est cette sculpture égyptienne, hein, avec ce personnage donc assis. Couvert de lin. Habillé de lin
avec des yeux très perçants, un regard très perçant, assez stoïque comme ça.
C'est un moment où tu t'es trouvé face à ce personnage, à cette œuvre. Est-ce que les regards étaient plus haut ou plus grand, plus haut que toi ou...
Alors, en fait, je pense que c'est vrai que je suis devenue art-thérapeute depuis. J'ai arrêté d'être peintre décoratrice pour des raisons physiques. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des œuvres qu'on appelle agissantes. Je pense qu'elles le sont toutes pratiquement. Et je pense que j'ai été vraiment subjuguée par ça, justement.
D'ailleurs, la Joconde, semble-t-il aussi, nous suit du regard. Hein, quand on passe devant elle, quelle que soit notre position, on a toujours l'impression qu'elle nous fixe. Ça, c'est une des magies qu'opérait Léonard de Vinci. Tu retrouves cette similitude avec ce scribe aussi?
Oui, tout à fait.
Mmh. Et il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Est-ce que tu peux décrire justement cette distance entre ces regards, hein, celui de l'œuvre et le tien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as pu capter à ce moment-là?
Oui, je pense, oui. Je pense que c'est, moi je dirais, de l'ordre de... comment dirais-je, c'est une culture qui est venue me, c'est la culture égyptienne qui est venue me toquer à ma porte en fait, qui m'a réveillée en tous les cas et qui me passionne, qui passionne mon fils. Enfin, je pense que c'est pas par hasard, ouais. Tout à fait.
Ensuite, donc très jeune, initiation à la peinture par le biais d'ateliers ou aussi une pratique en cours du soir, donc aux Beaux-Arts de Paris. Ça, c'est un moment qui vous a permis, qui t'a permis de t'enrichir aussi dans la technique et peut-être aussi d'avoir un regard à retranscrire sur du de la sur deux dimensions en somme.
Oui, tout à fait. Dans ces cours, j'ai eu la chance d'avoir une prof, Brigitte, qui était assez exceptionnelle, qui nous laissait vraiment complètement libre et qui n'intervenait quasi en rien. C'est vrai qu'après, avec le temps, je me suis dit que c'est fort l'émulation qu'il y a du groupe, en fait, puisqu'on était tous très silencieux. C'était du modèle vivant, donc avec un modèle qui posait. Et c'était, en fait, 2 heures, je crois me souvenir, on pouvait rester un peu plus longtemps, 2h30, suspendu dans le temps, complètement magique, où on partait dans un voyage à chaque fois différent, bien sûr.
Je me souviens de ces ateliers à Paris aussi. J'en ai fait quelques-uns aux Beaux-Arts en soirée après le travail. Et donc, il y avait une totale liberté avec une thématique au départ. Soit c'était un champ de bataille ou alors une clarté au milieu de l'obscurité. Donc, il y avait des thèmes comme ça donnés et on nous laissait liberté totale d'expression. Voilà. Mais c'était enrichissant parce que c'était en même temps réconfortant dans ce qu'on faisait. On nous mettait le point sur des petites erreurs, mais il y avait aussi cette liberté de quête, de découverte qui était proposée en technique et en imagination. Alors, après, il y a cette formation parmi les compagnons du Tour de France pour essentiellement le travail sur le trompe-l'œil.
Le trompe-l'œil, le faux bois, le faux marbre, ça c'était pour justement travailler dans le spectacle sur des commandes diverses et variées.
C'est le trompe-l'œil, et puis au niveau des compagnons, ça reste essentiellement technique, ce qui est proposé. Donc, il y a la préparation de ces trompe-l'œil. C'était des objets qui étaient peints ou alors c'était de l'aménagement de l'huisserie qui était peinte en trompe-l'œil.
Tout, ouais, tout ça, ouais, en effet. Il y avait des décors aussi, notamment une vue vénitienne avec les palmiers, etc. Ça dépendait, mais tout était possible, ouais.
Et tu parlais aussi du travail de report d'œuvres sur un support vertical, hein, donc en partant d'un dessin, de pouvoir le reporter. Il y a diverses techniques, hein, il y a la projection, mais il y a aussi la technique du quadrillage, de manière à découper l'original en quadrillage et de le reporter agrandi sur un support plus important. Ça, ce sont des techniques que tu as abordées aussi au niveau des compagnons.
Oui,
tout l'aspect technique, géométrique hein, qui est intervenu.
Tout à fait, oui. Ouais. Ouais, pour les fresques, oui, tout à fait. C'est des techniques qu'on utilise de quadriller l'endroit qui doit être peint et faire le report du décor. Ouais.
Et il y a aussi un aspect, c'est celui de l'anamorphose. J'ai vu certaines œuvres, je crois, même en Angleterre, où il fallait être sur un point précis d'une pièce pour avoir l'œuvre qui était complètement déformée hein, sur le support, sur le mur. Une œuvre complètement déformée. Et en étant sur un point précis, on voyait la réalité de ce que représentait justement ce motif. Donc et ça, c'est un travail aussi que tu as abordé ?
Oui, alors ça me fait penser plus aussi en cours du soir aux Beaux-Arts. Avant de faire le modèle vivant, j'avais oublié, tu vois, j'ai fait une année de dessin figuratif et j'ai travaillé avec une femme qui travaillait beaucoup, qui faisait beaucoup de la restauration d'œuvres pour les hôtels particuliers. Et notamment, elle travaillait au point. Et elle faisait du visage au point. Et moi, ce que j'avais choisi, c'était l'amour sacré, l'amour profane du Titien. Et donc, je me souviens très bien que pour le bassin, pour les seins, la poitrine, elle insistait énormément sur le fait de peindre, mais toujours dans le même sens. Donc, bien soulever l'arrondi de la poitrine et revenir et revenir encore de façon à vraiment donner l'aspect... l'aspect 3D, quoi, du coup, et vraiment faire vivre l'endroit du corps, quoi, précisément.
Il y a le travail du camailleux aussi, hein, de manière à amener les nuances de gris avant d'amener la couleur par transparence. Ça, c'est une technique aussi.
Alors ça, moi,
Non. Et la technique, justement, du pinceau, c'est... je ne sais pas si on parle de trateggio. Parce que j'ai fait de la restauration de fresques aussi. Et
c'est ça qu'on appelle, ouais.
Trateggio, c'est reconstituer une partie manquante par une similitude de couleurs plus ou moins nuancées avec des traits verticaux.
Alors moi, je me suis retrouvée à travailler avec des architectes iraniens qui m'ont demandé... on faisait donc des hôtels particuliers, des restaurants, ouais, et qui m'ont demandé parfois, sur le moment même, est-ce que tu peux nous refaire vite ce morceau-là de mur, par exemple. Alors, c'est quelque chose que j'arrive à faire instinctivement. Intuitivement, en fait, mais je ne l'ai pas appris. Hein. J'ai fait qu'une année hein, avec les compagnons, donc c'est court. Hein. Mais ça, c'est des choses que je... Voilà, j'ai un papa qui est peintre aussi, donc qui était peintre. Voilà. Donc, je pense que c'est des choses qu'on hérite. Hein.
Sur ces représentations de trompe-l'œil, qu'est-ce que tu représentais déjà à ce moment-là?
Les représentations de trompe-l'œil, j'en ai fait peu, en fait, à proprement dit.
Il y a quand même un certain académisme du trompe-l'œil. Hein.
Ouais, c'est pas ce que je préfère.
Oui, mais ça doit être fastidieux, j'imagine. Hein.
C'est fastidieux, ouais, oui. Ouais, complètement. Et puis c'est sur commande, tu vois, sur des commandes. Donc c'est souvent des décors peints. La personne te dit, j'aimerais cet esprit. Je me souviens de... Je suis pour un antiquaire. J'ai fait un peintre qui faisait beaucoup de ruines, qui peint que des ruines.
Un peintre du 18e, 17e ?
17e.
17e, parce qu'il y avait Claude Lorrain.
Non. Je me souviens plus de son nom. C'est marrant, je l'ai oublié.
Et après, comment est arrivé ce cheminement de ta peinture?
À peindre, parce que je représente pas uniquement la nature. Hein. Je me suis mise à peindre. Après, c'est court aux ateliers des Beaux-Arts, ouais. Tout à fait, je me suis vraiment installée à... Alors au départ, je faisais des choses avec des enduits aussi, j'aimais bien. Mais je me suis mise à peindre, oui. Quand je suis arrivée dans la Drôme, plus, on va dire. Ça fait 19 ans que j'habite là. Et je me suis un petit peu plus consacrée à la peinture par un moment où j'ai obtenu du temps. Parce que c'est un petit peu une histoire de temps. Et j'ai toujours pas eu d'atelier. J'ai toujours pas d'atelier. Donc j'aimerais bien en avoir un pour y consacrer encore plus de temps.
C'est un lieu inspirant, le Diwa ? Ou la Drôme ?
Pour moi, très, oui. Ouais.
Et très vite, tu t'es mise à peindre?
Oui, je peins, mais je peins régulièrement, on va dire. Je peins par à coup, plus exactement. Pas régulièrement, mais par à coup, oui.
Il y a des périodes propices pour ça
Voilà, je pense que c'est des états et des périodes propices. Et ça vient comme ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est vrai que je ne travaille pas au quotidien. Et j'ai beaucoup de mal à le faire, d'ailleurs. Sur commande, pour moi, c'est compliqué.
Et donc la nature, c'est des paysages ou alors peut-être plus comme un botaniste, percevoir quelques plantes ou une végétation?
Parfois, c'est comme je te disais, hein, c'est très irréaliste. Hein, ça peut représenter... tout le monde peut y voir quelque chose, en fait. Ça peut être vraiment des peintures complètement imaginaires. Avec des teintes, des couleurs. Alors, ça va être souvent assez fondu, assez nuancé, mais fondu en même temps. Et je ne sais pas trop bien en parler, il faut la voir en fait.
C'est difficile pour un artiste de parler de son travail, j'en connais pas. Hein. Il y a la nature, mais le figuratif également.
Oui, alors là, justement, pour cette dernière exposition là, qui a lieu... Ce vendredi, je me suis attelée à essayer de représenter un peu la nature et être plus dans le réalisme. Et je me suis confrontée vraiment à quelque chose de pas évident, mais très intéressant du coup. Ça rajoute un peu une corde à mon arc, c'est chouette.
Pour l'expression picturale, est-ce que tu trouves que le Diwa est assez bien fourni pour pouvoir justement se fournir en matériel? Ou alors est-ce qu'il y a une obligation de passer soit en voyageant ou à se faire livrer les matériaux nécessaires?
Oui, c'est vrai que moi je me livre, j'achète peu dans le Diwa, c'est vrai que j'achète sur Internet en fait. et que j'ai énormément de matériel. Déjà, j'ai peu besoin de matériel à part les toiles. Et là, je suis justement en train d'essayer de le faire moi-même, de faire mes cadres moi-même.
Il faut être bien équipé. Hein. Comment on appelle ça là?
C'est une espèce de
pince. Un combi de menuisier là, pour fabriquer les châssis.
Alors moi j'ai un voisin qui sait le faire très bien, mais c'est vrai que je vais les commander les châssis. Et par contre je suis allée à Florence là il y a quelques années, et j'ai ramené la pince il y a un an ou deux et du coup il doit me montrer comment faire. J'ai un rouleau de toile et on va faire ça.
Et il y a le pigment aussi. Alors le pigment, c'est, il y a deux mondes, hein, celui des tubes et celui du pigment. À l'état naturel et au résultat c'est incomparable. Je m'en suis rendu compte avec une artiste à Paris qui travaillait ses pigments et ses rouges vermillons étaient 10 fois plus lumineux que celui en tube. Mmh. Ouais, et donc il y a ça aussi, cet aspect là de préparer sa peinture, ses couleurs.
Bah, ça me fait penser à Séraphine de Senlis. Là, j'adore ce film et j'adore sa peinture. D'ailleurs, je suis allée voir l'expo et qui prenait le temps de préparer ses peintures et qui n'avait pas l'argent pour. Le fait est que moi, j'ai gardé tous les pigments de toutes les couleurs en espérant bien lier mes pigments à la peinture et puis créer ma peinture. Pour l'instant, quand j'ai le temps de peindre, c'est tellement un moment précieux que je prends pas ce temps-là, mais j'espère bien le faire. Ouais, 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 tout à fait.
Est-ce qu'il y a des couleurs naturelles que tu as trouvées ou découvertes sur le Diwa?
Oui.
Et
oui, oui.
De les travailler sur ces toiles?
Alors, pas sur les toiles, mais j'ai eu une commande assez particulière une année d'une femme qui s'installait dans le Diwa et qui voulait qu'on fasse nous-mêmes notre pigment, notre terre, etc. Donc, on avait trouvé une veine de terre verte dans le haut d'Iwa, et on a fait toute sa maison quasi en décor en stuc vert qui faisait en fait en lissant vert de gris en fait, en le stuquant. C'était assez joli.
Ça, c'est une pratique, hein. Le fait d'être passé parmi les compagnons te permet aussi d'exercer une activité en parallèle, justement dans la décoration et sur le Diwa ou un peu plus loin peut-être.
Oui, bah disons que j'ai beaucoup travaillé au départ sur Paris et ensuite j'ai travaillé beaucoup ici aussi parce qu'il y avait beaucoup de chantiers en éco-construction et chantiers de décor, le tas de lacs, le stuc, c'était quand même assez demandé, mais j'ai arrêté.
Tu transmettais également ton savoir avec des centres de formation?
Ah oui, bah, du coup, on était avec le père de mon fils sur un chantier là dans le Diwa, juste à côté de Adi. Et le coordinateur du Greta est passé voir les deux. On avait pris deux stagiaires qui sont devenus des amis d'ailleurs. Et qui, en fait, on était en train de faire une cave en voûte sarrasine. Et du coup, il m'a demandé ce que je faisais et puis il m'a débauché ce jour-là en me disant on cherche une formatrice en report de décor qui pourrait faire des interventions ponctuelles sur le Greta, qui était spécialisé en restauration du patrimoine, qui a un très bon niveau, avec aussi une formation éco-construction avec Tomek. Et voilà.
Donc, exposition actuellement sur Châtillon. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans cette proposition?
Eh bien, ça va être une surprise, parce que pour moi aussi, il faut que je puisse l'agencer, je sais pas encore ce que je vais encore faire une sélection aujourd'hui. Il y en a encore à sélectionner.
Il y aura combien d'œuvres en finale? Une idée un peu?
J'ai une idée de, je dirais un minimum de 10, voire ça peut aussi entre 10 et 15, 15, 20, je ne sais pas.
Des tableaux 6, de taille assez moyenne, autour de 60 cm, 1 mètre.
Oui, alors 60 par 80, ça sera les plus grandes. Et il y a des petits formats, 30, 40, ouais.
Comment se passe la première touche de pinceau sur une toile vierge?
Ah bah c'est un petit peu comme l'écrivain sur c'est la page blanche. Alors moi j'aime bien maintenant penser à un fond d'abord. J'aime assez bien suggérer partir comme ça dans une aventure, mais où je pars déjà sur un fond, où je pose déjà des couleurs, des choses comme ça. Ouais. Ça me rassure, je crois. C'est un bon soutien.
C'est une lumière que tu obscurcis par l'apport d'objets, de choses. Imaginons la toile étant claire et blanche, ou crue peut-être. Quelle est l'action que tu amènes
? Je parlerais plutôt de mouvement plus que de forme. Je serais plus dans une peinture de gestuelle, avec une respiration qui se pose, avec un. Et justement, la palette de couleurs qui intervient avec la gestuelle. Enfin, c'est assez, assez magique, en fait.
C'est empirique.
C'est empirique et c'est très peu rationnel. C'est pas du tout rationnel.
Au départ, il y a une idée préconçue et est-ce qu'elle tient dans le cheminement de cette peinture?
Oui, il va y avoir une idée de teinte, de nuance, mais ça ne tiendra pas. C'est clair que le chemin il va m'amener à quelque chose d'inattendu à chaque fois.
C'est à chaque fois une promenade?
Oui, une promenade, un voyage. Assez épuisant d'ailleurs. Je me rends compte que là, j'ai dû pas mal peindre ces derniers temps et... Ça vide complètement. On est vraiment dans un autre espace-temps, quoi. C'est une parenthèse enchantée, un peu, le moment de peindre.
Il y a cet aspect un peu flou, éthéré, quoi, de ce qui est représenté. Est-ce que petit à petit, tu penses peut-être affirmer un peu plus
J'espère que je pense pas trop. Par rapport à ça, et que je me laisse vraiment guider par l'intuition, l'inconscient. Ça, j'aime beaucoup.
À côté de ça, est-ce que tu pratiques des ateliers? Tu proposes des ateliers toi-même?
Alors, je vais en proposer, oui, cette année avec l'espace social. Ce sera, je crois, le vendredi à l'espace social et le mercredi à Châtillon, mercredi après-midi. Voilà. Et là, par contre, comme je suis en parallèle art-thérapeute, j'utiliserai les médiums que j'utilise, c'est-à-dire la terre, la peinture, l'écriture automatique et le collage.
L'art-thérapie, pour toi, c'est une manière d'exprimer.
Ouais, c'est une manière d'aller aux confins de l'inconscient, aux confins des messages de l'âme dont on a cruellement coupé les liens assez faciles, par le mental justement et l'ego. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, je pense qu'on est porteur de choses merveilleuses en nous, sauf qu'on n'a plus vraiment accès du fait de notre intellect trop surchargé, notre mental, notre ego qu'on a dû rendre costaud face à une société qui n'est pas toujours évidente. Et du coup, l'art, c'est vraiment... Pour moi, tous les artistes sont des gens qui ont compris que c'était un moyen de se soigner, de se faire du bien, en tous les cas, d'aller vers un essentiel.
Alors, à découvrir à cette exposition, hein, pendant tout le mois de juillet, c'est ça ?
C'est ça.
Peut-être prolongation ou pas ?
Oui, je serai au Festival des Arts et Vignes du 6 au 13 août, à Châtillon aussi.
Et est-ce qu'on peut découvrir ton travail autrement aussi? Non. Peut-être pour prendre contact aussi également, est-ce qu'il y a un moyen?
Ah oui, on peut venir chez moi. Chez moi, c'est mon atelier, donc il y a moyen de venir chez moi et de me contacter directement à mon numéro, quoi.
Soit par téléphone ou par mail, par exemple?
Par mail, voilà.
Et qui seront?
Alors mon mail, c'est Elysée, E-L-Y. s2es44@gmail.com.
Voilà. Eh bien, Valérie Lemaire, je te remercie d'être venue sur Air du Bois pour nous parler de ton exposition et de ta peinture. Et je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir. In the form of seven-headed beasts perched high in towers, sucking your blood, sucking your hours in the form of water creeping up right to your door. Hell of a storm, hell of a storm. In the form of demonic gods who hide like cowards. Wizard of Oz, Wizard of Oz. In the form of people who believe that they're actually free, deep in a dream, capital D. In the form of seven-headed beasts perched high in towers, sucking your blood, sucking your hours. In the form of
Water creeping up right to your door. Hell of a storm, hell of a storm. In the form of Svengali gods who hide like cowards. Wizard of Oz, Wizard of Oz. In the form of people who believe that they're actually free. Deep in a dream, capital D. In the form of seven-headed beasts perched high in.